bienvenue sur la LBB Radio. Nous sommes le 22 janvier en direct du lycée de la Borde Basse. Il fait 8 degrés Celsius et vous allez être avec nous pendant une heure.
Aujourd'hui, nous allons défaire les clichés chez les jeunes. Au programme, la déconstruction des clichés des jeux vidéo avec Adam.
Des mangas avec Aloïs.
Du rap avec Jeanne et Léo.
Du rugby avec Thomas.
Des réseaux sociaux avec Antonin.
De la mode avec Mathilde.
De Paris avec Marin.
Mais également de la culture des jeunes en 2020 avec Kenan.
Tout de suite, accueillons donc Kenan pour débuter notre émission. Cette émission. Alors, dis-nous, comment les jeunes se cultivent en 2020 ?
Bonjour. Alors, je vais consacrer ma chronique à la lecture chez les jeunes. Selon une étude réalisée par l'Ipsos en 2019, 88% des Français se déclarent lecteurs, soit une hausse de 4 points par rapport à 2017. Alors, cette augmentation, elle est notamment portée par les 15-24 ans et les 65 ans et plus. Alors, cette étude, elle permet de tirer plusieurs enseignements sur les jeunes et la lecture. Alors, premièrement, la lecture reste une activité importante chez les jeunes. En moyenne, les jeunes lisent 6 livres par an, dont 2 dans le cadre scolaire et 4 dans celui des loisirs. Associée à la notion de plaisir, cette lecture loisir est même la première en termes de fréquence de lecture. 68% des jeunes lisent au moins une fois par semaine et 28% lisent tous les jours ou presque. Alors, c'est bien plus que le manque d'intérêt, ce sont aussi d'autres critères, comme le manque de temps et plus encore, la concurrence avec les autres activités qui présentent pour les jeunes un frein majeur à la lecture. En effet, la lecture est 7e sur 9 dans la liste des activités favorites des jeunes. Regarder la télévision et des vidéos, voir des amis, écouter de la musique, pratiquer un sport et surfer sur le web. En revanche, elle est la première par rapport aux loisirs traditionnels, comme le cinéma ou la musique en concert. Alors, malgré certes une baisse de temps consacrée à la lecture, les jeunes lisent en moyenne 3 heures par semaine, contre 7h30 consacrées à la télévision et 8 heures à Internet. La lecture reste pour une large majorité des jeunes une activité qu'ils estiment importante. De même, ce sont 70% des jeunes lecteurs, soit près de 3 jeunes sur 4 qui affirment aimer lire. Donc, parmi leurs lectures favorites, on trouve en priorité des romans et des bandes dessinées et des mangas, avec une prédilection pour la science-fiction et les sagas. Alors, c'est plus que celui des enseignants, c'est le rôle des parents qui est décisif dans l'incitation à lire. 65% des jeunes disent que c'est leurs parents qui le leur demandent. Et de façon générale, les plus grands lecteurs sont ceux qui vivent dans des foyers où il y a des livres. Autre résultat significatif, 88% des jeunes fréquentent régulièrement la bibliothèque de leurs établissements scolaires et ce chiffre diminue un peu pour les bibliothèques municipales. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le numérique n'est pas l'ennemi du livre. Malgré la passion des jeunes pour Internet, ils restent très attachés à l'objet livre. De plus, l'évolution de la lecture sur liseuse reste modeste. Enfin, toutes les études du marché montrent que c'est dans les foyers les mieux équipés en biens culturels et technologiques qu'on lit le plus. Il existe également de fortes interactions entre la télévision, le cinéma et le livre, puisque de nombreux livres sont adaptés au cinéma et à la télé, notamment sur Netflix.
Kenan, avant de se quitter, comment souhaiterais-tu conclure cette chronique ?
Alors, j'ai envie de vous dire que même si nous, les jeunes, nous aimons nos téléphones, nos ordinateurs et nos réseaux sociaux, nous ne sommes pas prêts d'abandonner le livre et j'espère que ma chronique aura pu vous le démontrer.
Merci Kenan pour toutes ces informations.
Avec plaisir.
On accueille désormais Léo.
Bonjour Léo, tu vas donc nous parler du rap. D'ailleurs, il vient d'où ce courant musical ?
Bonjour. Alors, il faut savoir que le rap est un mouvement culturel et musical prenant ses racines du hip-hop, ayant émergé au début des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. Le rap se caractérise par sa diction très rythmée et en plus rime, le plus souvent une succession de couplets séparés par des refrains, influencés par d'autres genres musicaux comme le reggae, le blues, le jazz, le rock. Le rap acquiert une popularité de plus en plus grande au fil des années 1980. S'il est bien issu des populations noires américaines, le rap s'est démocratisé dès le début des années 1990 pour toucher également les populations blanches dont provient une part croissante des créateurs de rap. L'exemple le plus connu, c'est Eminem. Plus récemment, les pays européens, africains, puis asiatiques ont développé leur propre scène rap. Ainsi devenu un courant musical mondial très à la mode, le rap génère d'importants flux d'argent.
Ok, le rap vient donc des États-Unis, mais tu as dit qu'il s'était développé ailleurs dans le monde. Que peux-tu nous dire sur le rap français ?
Tout d'abord, le rap est le genre musical le plus écouté en France. Le rap français lorgne d'ailleurs aujourd'hui le monde. Considéré comme la deuxième place forte du rap derrière les États-Unis, la France attire les regards. Entre tournées à l'étranger, propositions de collab et expositions médiatiques accrues, plusieurs de nos artistes rap et R&B sont très demandés, pour le plus grand plaisir des fans anglophones de ce courant. Au fil du temps, le rap français a su opérer sa transformation pour plaire à un public plus cosmopolite. Avec Internet et la multiplication des réseaux sociaux, cette décennie a vraiment changé la donne. Le public étranger peut plus facilement découvrir les morceaux de rap français. Surtout, plusieurs artistes n'ont pas hésité à se tourner vers des sonorités électriques, reggaeton, africaines. Lorsque les paroles d'un tube sont faciles à répéter, même pour un public anglophone, le succès peut être mondial. Stromae, ancien rappeur et beatmaker, a été précurseur sur ce plan-là, avec ses titres très dansants chantés en langue française. Son deuxième album, sorti en 2013, Racine Carrée, permet aux Belges de parcourir le monde, porté par le single Papa Outé. Le résultat, plus de 500 000 disques vendus à l'international.
Et quels sont les thèmes favoris des rappeurs ?
Eh bien, le rap a pour principale vocation de dénoncer les injustices. Les rappeurs abordent souvent des thèmes comme la réalité des démunis, le racisme aux bavures policières, jusqu'à l'inégalité du partage des richesses.
Beaucoup de gens pensent que le rap est violent. Qu'est-ce que tu en penses ?
Certes, le rap c'est violent, mais dans beaucoup d'autres formes artistiques, nous retrouvons la violence, comme par exemple dans le théâtre, le sport, le cinéma. Le rap utilise cette violence pour dénoncer, raconter la réalité et faire parler de soi. La violence est aussi un élément majeur dans la littérature. En effet, l'Iliade, par exemple, décrit avec précision les blessures infligées aux combattants. Les drames de Shakespeare n'ont également rien à envier aux paroles du rap, puisque les scènes sont aussi violentes, avec une obscénité des mots assez présente. La violence dans le rap n'est donc pas non plus à prendre au premier degré, comme en littérature.
Alors Léo, que veux-tu que l'on retienne de ta chronique ?
J'avais vraiment envie de vous proposer de vous intéresser aux textes de rap pour ne pas s'en tenir à des idées reçues, un petit peu comme ceux qui pensent que la peinture contemporaine n'est pas à la hauteur de la peinture classique. Le rap est un genre à part entière, qui a des messages importants à délivrer.
Merci Léo, j'espère que ta chronique donnera envie à nos auditeurs de découvrir le rap. Jeanne, c'est à toi.
Toi aussi nous parler du rap, mais d'une autre manière que Léo. Qu'est-ce que tu vas pouvoir ajouter ?
Alors je vais essayer de voir s'il peut y avoir de la poésie dans le rap. Pour cela, je vais comparer des textes de rap avec des textes d'auteurs classiques et essayer de montrer à travers des figures de style présentes dans les textes la recherche de poésie dans le rap.
Mais est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer quel est le rapport entre le rap et la poésie ?
Alors la poésie est l'art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes et des harmonies. Et cette définition est selon moi applicable au rap, puisque celui-ci utilise aussi à sa manière des sons, des rythmes et des harmonies pour transmettre des émotions.
Donc, tu as prévu de commencer par comparer des textes ?
Oui, tout à fait. Et je vais commencer avec Paul Éluard, poète du XXe siècle, et Nekfeu, rappeur depuis 2011. Dans son poème « Liberté », Paul Éluard écrit « Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom ». Dans sa chanson, Nekfeu, lui, dit « Écrire est la première action d'un homme privé de liberté. J'ai pour preuve les noms des prisonniers gravés sur les murs des geôles. Mais les geôles, les prisons, ne sont-elles pas un symbole même de solitude ? On a donc ici un exemple montrant que la poésie et le rap disent parfois la même chose, de façon différente certes. Mais notre époque n'est-elle pas aussi différente ?
Et as-tu d'autres exemples ?
Alors on pourrait aussi le vérifier en comparant la chanson du rappeur et chanteur L'Homme Pâle, Zieux Dise, avec le poème de Victor Hugo, tiré des Contemplations. Elle avait pris ce pli. En effet, ces deux textes parlent du manque et des remords. Victor Hugo vient de perdre sa fille et est exilé, et L'Homme Pâle parle de son couple qu'il est en train de perdre. Vous me direz que leurs souffrances ne sont pas comparables. Certes, mais comme je l'ai dit précédemment, ces deux auteurs ne vivent pas à la même époque. L'Homme Pâle dit donc « Elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On ne profite jamais de ce que l'on a. » Là où Hugo, qui raconte sa vie avant la mort de sa fille, écrit « Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste, je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. »
Maintenant, est-ce que tu pourrais nous montrer des figures de style dans le rap ?
Alors, je vais essayer avec un texte de Nekfeu, « Rêve d'avoir des rêves ». Dans cette chanson, il fait un bilan de notre société, notamment en ce qui concerne l'éducation et la vie en banlieue. Ce texte est très poétique et emploie plusieurs figures de style. On remarque par exemple plusieurs antiphrases dans la chanson. Une antiphrase étant une utilisation d'un mot dans un sens contraire au sens véritable. On peut dire que les phrases « Quand j'ai besoin de faire le vide, je fais le plein » ou « Ton absence est la pire des présences » en sont. Il y a aussi beaucoup de rimes équivoques, rimes dans la totalité du mot « rime », comme « Il y a de l'odeur dans l'eau de la rivière » ou de double sens, comme dans la phrase « Pour changer de vie, il suffit d'un choix. Parfois, il faut vivre les grandes villes où personne ne vit la joie. » Ou villageois peut venir du verbe vivre ou du nom villageois.
Effectivement, en cherchant bien, les textes de rap peuvent être très élaborés. Voudrais-tu ajouter une dernière chose ?
Pour finir, j'aimerais vous parler d'une chanson qui, je trouve, illustre parfaitement notre thème. Tuer donc j'apprends, de Grand Corps Malade et Charles Aznavour. Ce sont des chanteurs issus de deux générations complètement différentes et qui ont pourtant composé cette chanson ensemble en 2010. Le texte parle d'un jeune homme, assis, seul sur un banc, méditant. Un homme plus âgé vient s'asseoir à ses côtés et engage une conversation, simple, anodine, qui décrit des valeurs essentielles telles que le partage ou la communication. Les hommes disent « Découvrez ma culture, j'apprendrai la vôtre, je pense donc je suis et tu es donc j'apprends. » Ils invitent donc à oser parler, oser comparer et débattre pour se réinventer à travers une autre génération qui n'est peut-être pas si différente de ce que l'on peut penser.
Merci Jeanne, grâce à toi, on a découvert que rap et poésie peuvent rimer ensemble. Toujours sur le thème du rap, on écoute maintenant Clara.
Tu as choisi de nous parler plus précisément d'une rappeuse qui a beaucoup marqué le rap français, Diams. Qui est-elle ?
Mélanie Georgiade, dit Diams, est une chanteuse, rappeuse, autocompositrice, interprète française. Née à Chypre en 1980, elle monte un groupe avec un ami en 1994. Ce dernier l'initie à la composition. En 1999, elle sort son premier album qui s'intitule « Premier mandat ». En 2003, son deuxième album, Brut de femme, est rapidement certifié disque d'or. Elle remporte une victoire de la musique pour le meilleur album rap de l'année 2004. Elle réalise ensuite, en 2006, l'album Dans ma bulle, qui contient le single à succès La boulette. Elle reçoit d'ailleurs un disque d'or pour cette chanson, ainsi qu'un disque de platine. En 2007, elle se voit récompensée d'un disque de diamant pour cet album. Son quatrième et dernier album, SOS, sort en 2009.
Pourquoi le pseudo Diams ?
Le pseudonyme Diams vient du mot diamant. La chanteuse choisit ce dernier car « Je tombe sur la définition du mot diamant et j'apprends qu'un diamant ne peut être brisé que par un autre diamant et qu'il n'est fait que d'éléments naturels », explique-t-elle.
Alors pourquoi a-t-elle tant marqué le rap français ?
La rappeuse casse les codes du rap. En effet, c'est une des rares femmes qui est dans ce milieu. C'est grâce à ses chansons engagées et originales qu'elle s'est fait un nom dans ce milieu très masculin. Elle reste d'ailleurs de nos jours une source d'inspiration pour les rappeuses actuelles, même si elle a arrêté sa carrière en 2012.
Quelle était sa source d'inspiration pour ses textes et ses messages ?
La rappeuse dénonce la discrimination et les clichés liés à la banlieue et aux jeunes. Elle parle de France profonde, une France conservatrice et traditionnelle. La France de Diams et celle de la banlieue, des jeunes, est exprimée avec le pronom « elle ». Elle dénonce les clichés de la banlieue, tels que la fainéantise. Elle paraît fainéante, mais dans le fond, elle ne perd pas de temps. Mais aussi des médias qui caractérisent la banlieue de manière très péjorative. Certains la craignent, car les médias s'acharnent à faire d'elle un cancre. James va promouvoir sa France. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle raconte les rêves de chacun, rêve d'être Tony Parker, les hobbies. Elle a besoin de sport et de danse, ou encore elle joue au foot. C'est le hip-hop qui l'a fait danser sur les pistes. La rappeuse va de plus donner son avis politique, celle qui vote extrême. De plus, elle critique le racisme présent, celle qui pue le racisme, et déclare « Ma France à moi se mélange, ouais, c'est un arc-en-ciel », pour évoquer les différentes couleurs de peau des habitants. James demande aux jeunes de se révolter contre le gouvernement jusqu'à ce que ce dernier respecte leur présence. « Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent ». C'est donc une chanson pleine d'espoir, d'un monde meilleur, sans injustice ni préjugés. Voici donc un court extrait.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Merci Clara. Grâce à toi, on a vu que les femmes ont toujours tout à fait leur place dans le rap et qu'elles ont des messages forts à faire passer.
Avec Adam qui va nous parler des jeux vidéo.
Bonjour Adam, tu vas donc nous parler des préjugés sur les jeux vidéo. Tu commences par quoi ?
Je commencerai par vous citer un premier préjugé assez répandu. Le jeu vidéo, ce n'est que pour les enfants. Dans les années 80, les consoles de jeux se sont invitées dans les salons des foyers français grâce aux enfants. Mais depuis, ces enfants ont bien grandi et ils continuent ou non de toucher des manettes de jeu pour leur plus grand plaisir. Mais les jeux vidéo ne sont pas que pour les enfants. Au contraire, la moyenne d'âge des joueurs est de 33 ans en France, et elle ne cesse de reculer chaque année. 83,5% des joueurs sont des adultes, le reste sont donc des joueurs ayant moins de 18 ans.
Est-ce que tu penses que les jeux vidéo rendent vraiment violents ?
Cela fait des années que l'on entend que les jeux vidéo sont en lien direct avec la violence et la délinquance. Ceci est notamment dû à la presse qui, à chaque fait insolite meurtrier, s'empresse de vérifier à quel jeu joue le meurtrier. Mais sachez que les jeux vidéo PEGI 16 et PEGI 18 sont nettement minoritaires dans les boutiques de jeux vidéo. 76% des titres lancés concernent des jeux vidéo sans limite d'âge. Même si certains jeux sont violents, tels GTA V ou Call of Duty, ils n'incitent pas à un comportement de mimétisme, et heureusement. D'ailleurs, le jeu le plus vendu dans le monde, c'est Wii Sport.
On entend souvent dire que les joueurs n'ont pas de vie sociale. Qu'en penses-tu ?
Si on pense que les joueurs jouent toujours seuls et se referment sur eux-mêmes dans leur chambre, c'est totalement faux. Aujourd'hui, le jeu vidéo en réseau existe, et ce n'est pas pour rien, puisqu'on estime que 2/3 des joueurs jouent à plusieurs. Seuls 30% des joueurs jouent seuls et ils pourraient rencontrer des millions de joueurs à travers le monde simplement en se connectant en réseau. De plus, un sondage a révélé que les plus gros joueurs ne consacrent que 18 heures de jeu par semaine en moyenne, ce qui leur laisse le temps de sortir et bien évidemment de rencontrer des gens.
On pense aussi souvent que jouer peut diminuer les capacités intellectuelles, c'est vrai ?
S'il existe des études qui montrent que jouer de longues heures aux jeux vidéo peut être nuisible, il y en a beaucoup d'autres qui prouvent le contraire. Notamment une étude allemande qui a démontré que certains jeux vidéo permettaient de développer certaines zones du cerveau. Après avoir joué 30 minutes par jour à Mario Kart 64 durant 2 mois, les jeunes âgés de 23 à 25 ans ont vu le nombre de leurs cellules grises augmenter considérablement dans certaines zones du cerveau responsables de la mémoire ou de la motricité des mains. D'ailleurs, certains jeux permettent de prendre des décisions plus rapidement et d'augmenter les réflexes.
Mais le jeu vidéo est-il une sous-culture ?
Longtemps considéré comme un loisir éphémère qui serait dépassé dans les années 90, le jeu vidéo est devenu le premier bien culturel en France. D'ailleurs, le jeu vidéo génère plus de 2,7 milliards d'euros chaque année en France. Comme vous le savez sûrement, le jeu Minecraft a été racheté par Microsoft pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. On ne peut donc pas considérer le jeu vidéo comme une sous-culture, mais bien comme une culture à part entière.
Merci à toi Adam de nous avoir montré à travers ta chronique que les jeux vidéo ne sont pas aussi futiles et nocifs que ce que certains peuvent penser.
On laisse maintenant place à Aloïs qui va nous parler des mangas.
Musique.
tu as choisi de nous parler dans ta chronique des mangas en général. Qu'est-ce qu'un manga ?
Bonjour. Un manga est une bande dessinée japonaise qui est en général présentée en premier dans un journal ou un magazine. Un manga respecte les codes de lecture japonaise, même traduit dans d'autres langues ou même quand il est d'origine de d'autres pays comme la France. Et se lit donc de droite vers la gauche.
Donc, selon toi, quels sont les clichés les plus récurrents au sujet des mangas ?
On entend souvent que les mangas sont stupides, érotiques ou violents. Donc pour commencer, j'ai pris environ 70 mangas que j'ai lus pour exemple de comparaison. Et il y a environ 7 mangas qui contiennent des scènes érotiques, dont 2 sont des caricatures. J'ai ensuite regardé dans les films les plus vus lesquels contenaient des scènes érotiques et j'ai remarqué que Titanic, Shining, Fight Club et Bienvenue à Gattaca en contiennent. Pour le cliché de la violence dans les mangas, j'ai utilisé le même processus et presque tous les films connus contiennent des scènes violentes et sont même souvent connus pour ça. Par exemple Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Alors que dans les mangas, environ la moitié des plus connus ne sont pas violents car ils parlent de sport, de nourriture, de musique et d'autres sujets divers. Pour finir, les mangas ne sont pas une sous-culture contenant des histoires stupides et irréfléchies. J'ai choisi de parler de Death Note, qui est l'un des plus populaires pour vous donner un exemple. Death Note est un manga dont le premier tome, paru en 2003, raconte l'histoire d'un lycéen qui tombe par hasard sur un cahier noir avec sur la première couverture écrit Death Note. Il le ramène chez lui et commence à le feuilleter. Sur la première page, il y est écrit « Ceux dont le nom est écrit dans le cahier meurent ». Après avoir compris que le cahier marche vraiment, il décide de purger le monde en tuant tous les criminels de la planète. On suit l'histoire des deux points de vue, celui de Light Kagami, le possesseur du cahier, et celui des enquêteurs qui essaient de deviner qui est cette personne qui assassine les criminels. On se demande tout au long de l'histoire quel camp va gagner et celui qui doit gagner.
Merci pour ta chronique qui nous éclaire un peu plus sur ce genre littéraire. On passe tout de suite à la chronique suivante sur les réseaux sociaux avec Antonem.
Bonjour. Alors, les réseaux sociaux sont-ils néfastes ou bénéfiques pour la génération Z ? C'est le sujet que je vais aborder maintenant. Malgré ce que pensent la plupart des personnes et entre autres les adultes, les réseaux sociaux ne présentent que très peu de problèmes si on les utilise correctement.
Les réseaux sociaux n'ont-ils pas une mauvaise influence sur leurs utilisateurs ?
Malgré les fake news que ceux-ci peuvent proposer, il suffit de se renseigner sur le sujet voulu pour se rendre compte des erreurs qu'ils peuvent avoir fait. De plus, les réseaux sociaux et les publications que l'on peut y trouver sont très généralement postées pour divertir, c'est-à-dire diffusées sous forme d'images ou d'ensemble d'images. Les informations sérieuses sont très généralement données avec des sources, ce qui permet de s'assurer de la véracité des informations.
Mais les réseaux sociaux nous rendent-ils asociaux ?
Premièrement, je me dois de rappeler que la fonction première des réseaux sociaux est celle de partager avec autrui des informations drôles, sérieuses, tristes ou autres. De plus, ces informations peuvent être partagées avec les personnes que nous souhaitons en choisissant de ne les partager qu'avec nos abonnés. Il est d'ailleurs possible de choisir encore plus précisément les personnes avec lesquelles nous voulons partager nos posts en choisissant les personnes qui seront les seules à recevoir nos informations. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, les réseaux peuvent être pratiques pour se donner rendez-vous, pour se voir dans la vraie vie. De plus, cela permet aussi de se renseigner bien plus rapidement si par exemple une de nos sorties doit être annulée. Le message sera reçu bien plus rapidement que par lettre. Nous pourrions aussi nous appeler par téléphone, mais cela ne changerait pas grand-chose, étant donné que les messages se reçoivent aussi vite que de passer par un appel téléphonique. En résumé, je ne pense pas que les réseaux nous rendent asociaux, tout simplement car ils ne nous empêchent pas de nous voir dans la vraie vie. Au contraire, ils facilitent nos rencontres. Ils nous permettent aussi d'être au courant des différents événements qui arrivent à nos amis bien plus rapidement qu'avec une lettre. N'oublions pas non plus que les réseaux sociaux permettent de créer des groupes de personnes qui partagent les mêmes intérêts, ce qui crée du lien social.
Par quoi voudrais-tu conclure, Antonin ?
Les réseaux sociaux, c'est un peu comme les médicaments. Ils sont très utiles, mais leur mésusage peut générer des dangers.
Merci, Antonin. Nous laissons la parole à Mathilde sur un tout autre sujet, puisqu'elle va nous parler de la mode. À toi. toi, Mathilde.
Bonjour, j'ai choisi de vous présenter la mode et les a priori qu'on pourrait porter sur elle. Dans un premier temps, je vais parler des tenues jugées décentes, ensuite du maquillage et de certains habits pour les garçons, entre guillemets, et enfin de la dictature des marques chez les jeunes.
Ça veut dire quoi, justement, une tenue décente ?
On remarque que, encore en 2021, le corps de la femme est toujours sexualisé. Tous les jours, dans la rue, dans les bars et même dans les établissements scolaires, les femmes subissent une pression sociale les obligeant à faire attention à la manière de s'habiller. On entend encore d'ailleurs trop souvent dans les cas d'agression sexuelle des justifications moralisatrices comme « c'est normal, regarde ta tenue, tu n'avais pas à déconcentrer les garçons, il ne fallait pas sortir habillé comme ça » et la liste est longue. On nous accuse de vouloir provoquer les garçons, mais ne faudrait-il pas corriger les attitudes de certaines personnes plutôt que de surveiller les tenues des filles ?
Alors, y a-t-il justement des tenues jugées provocantes ?
C'est en tout cas ce contre quoi certaines jeunes femmes veulent lutter. Un mouvement a ainsi été lancé le 14 septembre 2020 sur Twitter avec le hashtag lundi 14 septembre. Suite au témoignage de plusieurs lycéennes qui se sont vues reprocher ou refuser l'entrée de leurs établissements à cause de leur tenue, comme un crop top, un t-shirt laissant apparaître le nombril, ce mouvement a appelé les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes, à venir habiller de manière jugée indécente ou provocante lundi 14 septembre dans leurs établissements scolaires pour dénoncer les comportements sexistes et défendre le droit de s'habiller librement. Il a fait réagir jusqu'au gouvernement. Ainsi, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté et ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes, a tweeté son soutien au mouvement en écrivant « Des jeunes filles ont décidé spontanément partout en France de porter jupes, décolletés, croque-top ou maquillage pour affirmer leur liberté face aux jugements et aux actes sexistes. En tant que mère, je les soutiens avec sororité et admiration. » Le mouvement a été également soutenu pour le collectif. Nous toutes, en tweetant, nos tenues ne sont pas le problème. Le problème, c'est le harcèlement, les agressions et les viols, ainsi que par des personnalités publiques telles que Angèle, une chanteuse belge. Les jeunes prennent de plus en plus d'initiatives, comme au Québec, dans le lycée de Sherbrooke, où des garçons portent la jupe pour faire changer les mentalités. Ce mouvement viral s'attaque au sexisme et au code vestimentaire. Les élèves se battent pour l'égalité des sexes et contre la masculinité toxique. J'ai relevé une phrase d'une élève canadienne qui disait « C'est pas la fille qui porte une jupe le problème, c'est toi ».
Justement, en parlant de masculinité, est-ce qu'on peut être un garçon et se maquiller ou s'habiller comme une fille ?
On relève que la discrimination chez les garçons est très présente. Beaucoup de garçons se maquillent ou aiment bien s'habiller, mais n'osent pas le montrer car dès le plus jeune âge, on nous met dans des cases. Je prends l'exemple des catalogues de jouets avec l'étalage de bricolage bleu pour les garçons et la dinette rose pour les filles. Il y a aussi le harcèlement scolaire et ces phrases qu'on entend trop souvent. Le maquillage, c'est pour les filles, porte des pantalons, pas des jupes, etc., etc. Mais heureusement, des personnalités brisent les codes, comme Eddie de Préto dans sa chanson Kid, qui dénonce la virilité abusive à travers le physique, les sports de ballon, donc le rejet de tout ce qui pourrait paraître féminin. Ou encore, comme Jean-Paul Gaultier, qui bouscule les normes, surtout dans les années 80, où il porte des robes et jupes lors de ses défilés. Comme le démontrent ces célébrités, c'est en bousculant les normes que l'on change les esprits. En effet, dans notre société, nous prenons très, peut-être trop, le regard des autres en compte. C'est le cas des jeunes et les marques. C'est là qu'intervient la troisième problématique.
Les marques d'habits jouent-elles justement un rôle important chez les jeunes ?
Alors oui, dans certains lycées, les marques définissent même le statut social de la personne. Étonnant, n'est-ce pas ? Mais l'attrait des jeunes pour la mode et les marques n'est pas nouveau. Le désir de bien s'habiller a toujours été présent. On note aussi que les adolescents se comparent souvent. Des fois, il est vrai que nous avons beaucoup de besoin de nous identifier à certaines personnes, à des célébrités par exemple, ce qui favorise le placement de produits. Je vous explique. Une célébrité qu'on admire pour X raisons porte une tenue d'une telle marque et la recommande. Influencée par cette dernière, je vais sûrement l'acheter. C'est comme ça que les marques, les logos s'emparent de la période de l'adolescence pour promouvoir une construction vestimentaire. Heureusement, il existe des sites et des friperies où tu peux acheter de beaux vêtements de marque, ou pas, à prix cassé. Mais pour moi, l'important c'est de vivre en faisant ce qui nous plaît, en portant ce que l'on veut, et non de vivre à travers le regard des autres et les standards de notre société.
Très bonne conclusion Mathilde, merci beaucoup.
Tu vas nous parler de Paris, je crois. Bonjour à tous. Partout dans le monde, les gens ont des clichés sur les Français. Les baguettes, les bérets, les moustaches. À l'intérieur même de la France, les gens de régions différentes ont des préjugés sur les gens d'autres régions. Dans le Tarn, par exemple, on entend souvent parler des gens parler des Parisiens comme de personnes grincheuses, dépensières, peu aimables voire impolies, n'ayant jamais le temps, roulant n'importe comment ou ne parlant pas du tout anglais. Or, tout cela est majoritairement faux et nous allons voir pourquoi.
Est-il vrai que les Parisiens sont mal polis ?
Le préjugé que tu as évoqué, Mathilde, est sûrement le plus connu. En fait, ce fait est juste l'impression des touristes qui fréquentent des hôtels et des restaurants bondés. En réalité, comme dans de nombreuses cultures, cela peut prendre un certain temps pour se faire entendre par les Parisiens. Cependant, dès que vous aurez fait la connaissance des gens, ils sont pour la plupart chaleureux et accueillants.
Les Parisiens sont tous fumeurs.
Ce cliché, Jeanne, est peut-être l'un des plus véridiques. En tout cas, c'est certainement l'impression qu'on a. Dans les années 1950, avant qu'on ait conscience des effets néfastes de la cigarette, les compagnies de tabac en France vantaient les bénéfices minceurs de fumer.
On dit souvent que les Parisiens ne parlent pas bien anglais. Est-ce une idée reçue ou est-ce vrai ?
Même si les Parisiens s'adressent à vous en français, cela ne signifie pas forcément qu'ils ne savent pas parler anglais. De toute façon, même si l'anglais est devenu la langue la plus répandue dans le monde, les Parisiens resteront toujours fiers de la langue française. Et même s'ils sont constamment chargés d'accueillir de touristes de nationalités différentes, en fait, la plupart des Parisiens, surtout des générations plus jeunes, ont une bonne maîtrise de la langue anglaise, puisqu'il y a de plus en plus de cours et que ces jeunes générations sont de plus en plus amenées à parler avec des gens originaires d'autres pays.
Et les Parisiens conduisent-ils aussi mal qu'on le dit ?
C'est vrai qu'on entend souvent que les Parisiens conduisent mal. En fait, c'est plutôt le fait qu'il y ait une grosse circulation dans la capitale qui donne cette image. En effet, c'est bien plus difficile de conduire lorsqu'il y a beaucoup de voitures. De plus, on peut remarquer que les Parisiens mettent bien plus le clignotant que les provinciaux. Tout cela dit, on peut remarquer que si certaines idées que l'on a des habitants de la capitale sont vraies, la majeure partie d'entre elles ne sont seulement le fruit que du bouche à oreille. J'espère que j'aurai fait changer, ne serait-ce qu'un peu, votre avis sur les Parisiens. Merci à tous de m'avoir écouté.
Merci à toi, Marie. On va maintenant écouter la dernière chronique. C'est Thomas qui va nous parler du rugby.
On dit souvent que les rugbymen sont tous des brutes. Vrai ou faux ?
Bonjour à vous. Et oui, c'est l'un des plus gros clichés auxquels a affaire le rugby. Alors je me suis posé une question à laquelle je vais essayer de répondre tout au long de ma chronique, qui est « Le rugby est-il un sport de brutes ?» Alors oui, j'admets, j'ai peut-être pris la question de la facilité. J'en ai parlé juste un peu au-dessus. Mais bon, c'est mon projet, ok ? Bon, pour répondre à cette question, je vais commencer par vous parler des clichés sur le rugby. Alors, il y a plusieurs clichés, comme le fait de dire que c'est un sport d'hommes sans cervelle, ou encore que ce n'est pas un sport pour les filles. D'abord, j'aimerais vous dire que le rugby est un sport pour tous. Les règles du jeu permettent aux joueurs de toute taille, de tout gabarit, de toute aptitude technique, quel que soit son sexe ou son âge, de jouer selon leur niveau dans un environnement contrôlé, compétitif et agréable. Majoritairement, le rugby est pratiqué par des hommes, catégorisés comme étant un sport un peu violent, rentre-dedans, plein de sueur et de gros muscles. Peu de femmes osent s'y aventurer, et quand elles font, elles se retrouvent face à une flopée de clichés. Pourtant, il existe bien et bien une pratique féminine du rugby. Il incombe à toutes les personnes qui jouent au rugby, femmes, hommes, enfants, de bien connaître les règles et comprendre les règles du jeu.
Justement, est-ce que tu peux nous expliquer les règles ?
Oui, bien sûr. Je vais essayer de vous faire un résumé clair. Chaque équipe doit tenter de marquer le plus de points en aplatissant le ballon dans la zone adverse, ce qui rapporte 5 points. On appelle ça un essai. Quand un essai est réussi, il y a ensuite transformation. Un joueur doit envoyer le ballon en le frappant avec le pied entre les deux poteaux, d'un des deux côtés du terrain, afin de faire gagner 2 points supplémentaires à son équipe. D'autres transformations peuvent être marquées au pied suite à une faute d'un joueur sur un de ses adversaires, un hors-jeu, un plaquage non réglementaire, ce qui, cette fois, rapporte 3 points. Ce qui fait la particularité du rugby, c'est que le ballon doit se déplacer vers l'arrière. En effet, un joueur ne peut pas faire de passe à un coéquipier qui se trouve devant lui. Et si pendant une action, un joueur fait malencontreusement tomber le ballon devant lui, il y a faute, on appelle ça un en avant. Voilà un très bref résumé des règles du rugby, car il y en a pas mal. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le site de la Fédération Française de Rugby, la FFR.
Merci pour cette explication, Thomas. Est-ce que tu es toi-même joueur ?
Alors oui, je joue au rugby, et pour ma part, je joue au rugby à Mazamé, en Cadet. J'aime beaucoup ce sport, car déjà, mon père y jouait, et j'adorais aller le voir jouer. Et puis, la pratique de ce sport implique toujours sur le terrain, et par nature, d'être solidaire entre joueurs. Je pense que la volonté et la solidarité sont les valeurs du rugby. Elles n'ont pas d'âge ni de niveau. Des cadets à la 4e série jusqu'à l'équipe de France, elles sont nécessaires à la pratique. Sans elles, l'équipe devient friable. Ce sont les valeurs du rugby et de beaucoup d'autres sports. Et pour finir, je vais vous parler du club de Castres, le CO, ou Castres Olympique. Le CO est quintuple champion de France au rugby à 15. Le Castres Olympique a été fondé le 20 février 1906 par d'anciens élèves du collège de Castres réunis dans la Brasserie de l'Europe à Castres. Le club joue aujourd'hui en top 14, le plus haut niveau en France. Et c'est sur ça que je m'arrête. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi Thomas. Je pense que grâce à ta chronique, on verra ce sport différemment.
Touche à sa fin. Nous avons pu remarquer qu'au quotidien, les jeunes font malheureusement face à de nombreuses idées reçues. Au lycée, par rapport à la musique qu'ils écoutent, aux tenues qu'ils portent, à leur sport.
Mais nous ne sommes pas tous feignants, geeks, délinquants ou provocants. Nous avons nos qualités et nos défauts. Le mieux serait donc de favoriser la cohabitation intergénérationnelle et diminuer les clichés déplacés.
Nous allons donc nous quitter en espérant que cette émission vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être permis de changer d'avis sur notre nouvelle génération.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous pensons beaucoup à vous, résidents, mais aussi à toutes les personnes des EHPAD qui ne manquent pas d'occupation en ce moment. En espérant peut-être vous rencontrer prochainement, bon après-midi à tous, chers auditeurs.